de pierres et de notes, votre rendez-vous musical, orchestré par Blandine Piccinini.
Bonjour, bienvenue dans l'émission de Pierre et de Notes. Bonjour Yves.
Bonjour Blandine.
Vous êtes organiste et jouez beaucoup le BACH de Liszt.
Oui, enfin je m'y frotte effectivement, oui.
Liszt a utilisé cette formule BACH pour pouvoir composer certaines de ses œuvres, notamment le BACH de Liszt. Et comment ces lettres entrent-elles au cœur de son œuvre et pour générer effectivement une composition ?
Bach lui-même s'était rendu compte de la valeur de ce thème basé sur son propre nom, effectivement. Donc je rappelle que c'est si bémol, la, do, si bécart. Ces quatre notes qui ont l'air de tourner en rond, mais qui en fait évoluent très fort, peuvent servir de point de départ à un tas de choses. On peut même dire que la toute dernière fugue de l'art de la fugue, celle qui n'a pas terminé, se termine justement là où ça s'est inachevé, par ce thème-là. Et donc, on suppose qu'il avait l'intention d'écrire une fugue sur le thème de son propre nom, ce qui constitue une sorte de signature. D'abord, le BACH de Liszt, puisque vous me mentionnez cette œuvre, dont nous allons peut-être entendre un extrait tout à l'heure dans la version syncrétique de Jean Guillou. Jean Guillou s'est aperçu que Liszt avait écrit à la fois une version pour le piano et une version pour l'orgue, et il a voulu prendre le meilleur des deux. C'est tout à fait étonnant avec la technique de Jean Guillou en plus, qui est quand même exceptionnelle. Il a tout simplement considéré le BACH comme le Big Bang, c'est-à-dire l'origine de tout. Et en effet, sur le pédalier, comme dans la grande passacaille, sur le pédalier, il énonce ce thème sur le grand plénum, et ensuite, il développe des variations dans le style rhapsodique, comme il le fait dans la sonate en si mineur. Liszt a écrit une sonate pour piano en si mineur, tonalité de Bach d'ailleurs, typique le si mineur. Il fait exactement la même chose, mais sur le BACH, dans son BACH. Donc, il le représente comme une allégorie de la création. BACH, c'est la fondation de tout, c'est le Big Bang, c'est l'origine. Je dirais en tête, lui, le logos, au commencement était le verbe, la parole, B-A-C-H. Et ensuite, il va développer là-dessus un monde musical complet.
De célèbres compositeurs ont effectivement cité les lettres B-A-C-H, oui, qui signifient ruisseau en allemand. Et donc, comment peut-on traduire du Bach dans une autre époque, en fait ?
Ça coule de source, si j'ose dire, à propos du ruisseau. Et d'ailleurs, Bach lui-même ne manquait pas de jouer sur son nom. Il s'amusait, par exemple, Krebs, qui était un de ses élèves. Krebs, en allemand, c'est l'écrevisse. Et il disait, comme c'était un de ses élèves, il disait « c'est la meilleure écrevisse de mon ruisseau ». Donc c'était tout à fait amusant. Alors je crois que les compositeurs l'ont toujours considéré comme une source, une bibliothèque à laquelle on peut puiser et bâtir l'avenir. Et d'ailleurs, je pense que Bach lui-même concevait sa musique comme ça. Lui-même avait puisé dans le passé, en particulier les Italiens et les Français, et avait bâti sa musique fuguée de son temps, sa musique baroque. En fait, c'est le père du baroque. Et les classiques et les symphonistes, ensuite, vont puiser dans cette source pour construire quelque chose. Alors, il faut quand même regarder la personnalité de chacun des compositeurs. Liszt avait une personnalité tout à fait particulière. Je voudrais quand même parler des caractéristiques essentielles de ce personnage. D'abord, il y a son aspect zygane. Liszt était hongrois. D'ailleurs, il ne faudrait pas dire Liszt, il faudrait lire Liszt Ferenc. Il a francisé son nom en s'appelant Franz quand il est venu en France, mais c'est Ferenc son prénom, et on dit le nom avant le prénom en hongrois, donc c'est Liszt Ferenc, est avant tout un nomade. Alors ça, c'est une grosse différence avec Bach, quand même. Bach n'était pas vraiment un nomade. C'était un père de famille qui a peu voyagé, bon, à part le voyage de Potsdam et le voyage de Lübeck, il a finalement peu voyagé dans sa vie. Liszt était un nomade, premier point. Deuxième point, Liszt a été hanté toute sa vie par la littérature de son époque et par les Allemands et par le mythe de Faust. Le mythe de Faust a beaucoup hanté Liszt, et ça, c'est également très différent de Bach. Ce qui le rapproche de Bach, c'est ses racines franciscaines. Liszt a été ordonné à la fin de sa vie. C'est d'ailleurs assez extraordinaire, c'est devenu l'abbé Liszt. Et donc, ses racines franciscaines le rapprochent considérablement de Bach, par les sources grégoriennes, bien sûr. Bach, ce sont les sources du choral luthérien. Mais quand on y regarde de près, finalement, les sources musicales du choral luthérien et du grégorien, ça n'est pas pour rien que Bach a écrit une messe, véritablement une messe telle que nous la connaissons. Et donc, c'est François d'Assise, on peut le dire, qui a donné la base pour que Liszt soit fasciné par Bach, le respecte infiniment, je dirais presque se l'approprie, non pas au sens de la possession, mais de l'amour qu'il porte à ce thème.
Il s'agit aussi d'une vision d'humilité qu'il a vis-à-vis de Johann Sebastian Bach.
Alors, effectivement, parler d'humilité à propos de Liszt, c'est un petit peu étonnant parce que c'était un personnage flamboyant, mais vis-à-vis de Bach, effectivement, oui, on peut le dire.
Quelque part, quand un compositeur cite notamment Johann Sebastian Bach, cela signifie qu'on est quand même respectueux des compositeurs précédents d'une autre époque, même si on revendique un autre mouvement.
Tout à fait. Alors, Liszt le disait lui-même, je rêve de jeter mon javelot dans l'univers infini de la musique du futur, mais il puisait cet univers, effectivement, dans Bach. Il a écrit pour l'orgue trois œuvres majeures qui sont bien sûr le BACH, le prélude et fugue sur BACH, mais aussi la fantaisie et fugue sur Ad nos ad salutare mundam en do mineur, comme la Passacaille, qu'il a sous-titré avec l'eau que moi je vous donnerai, vous n'aurez plus jamais soif. Donc c'est une œuvre sur l'eau de la vie éternelle. Et puis les variations Weinenklagens Orgensagen, quand il a perdu sa fille, qui sont écrites sur le thème du crucifixus, de la messe en si de Bach. Donc Bach, par son nom, par la Passacaille, par la messe en si, est présent dans l'œuvre d'orgue de Liszt.
Il y a des ressemblances quand même peut-être entre Liszt et Johann Sebastian Bach. Est-ce que citer quelqu'un, ça veut dire effectivement on aimerait bien être ce personnage, ou on le dédicace, ou
non,
on le voit comme un modèle?
C'est plus fort que ça. Je crois pouvoir dire que dans la structuration des œuvres de Liszt, il y a du Bach. C'est ce que disait Mozart d'ailleurs. Mozart, quand il a lu l'Art de la fugue, il a dit clairement qu'il allait s'en inspirer et qu'il allait, alors, non pas le faire sien, ça n'est pas le mot, mais utiliser, oui, vous avez raison, avec une certaine humilité, utiliser cette source extraordinaire pour structurer la musique de l'intérieur. Alors, effectivement, quand on joue ces grandes œuvres de Liszt, c'est d'ailleurs assez difficile, hein, techniquement, la virtuosité est toujours au service d'une intention musicale. Il suffit de jouer les jeux d'eau de la Villa d'Este, entre parenthèses, une œuvre qui est proche des variations de la fantaisie et fugue Ad salutare mundam, puisque c'est l'eau de la vie éternelle, les jeux d'eau de la Villa d'Este. Alors il y a une virtuosité extraordinaire, mais quand on regarde de près, je dirais c'est une virtuosité franciscaine. C'est-à-dire c'est une virtuosité au service de la spiritualité et d'une lumière intérieure absolument extraordinaire. Au fond de lui, il y avait une musique extraordinairement structurée. Il suffit de lire son œuvre de l'intérieur. Ben, je prends les deux concertos pour piano, par exemple. C'est une musique d'une virtuosité fabuleuse, mais la virtuosité est faite pour la musique et pas la musique pour la virtuosité.
Liszt, peut-être justement dans Johann Sebastian Bach, qui signifie ruisseau, voulait peut-être se voir à l'intérieur comme miroir dans, dans cette eau, pourquoi
miroir
pas
miroir dans l'eau,
ce
absolument.
Reflet.
C'est les reflets dans l'eau, on est déjà dans Ravel, là, quelque part. Oui, oui, mais d'ailleurs, il n'y aurait peut-être pas eu Ravel s'il n'y avait pas eu Bach et Liszt.
Liszt a cité Bach, mais Bach a aussi cité ou copié même Vivaldi à son époque.
Complètement.
Donc peut-être les citations à l'intérieur d'une œuvre étaient importantes.
Absolument.
Pour ces compositeurs-là.
Et Bach admirait énormément Vivaldi, et pas que Vivaldi, il admirait Frescobaldi, il admirait Grigny, il admirait les Français, le fameux Louis Marchand, il l'admirait aussi. Oui, oui, ils s'admiraient mutuellement, effectivement.
Liszt à la fois était un compositeur passionné, il a aussi éprouvé quelques souffrances. Oui. À l'intérieur de son être, et peut-être il se retrouvait dans l'écriture de Johann Sebastian Bach.
Mais complètement. Ils ne sont pas si différents que ça, en fin de compte. On dépeint souvent Bach comme un roc inébranlable, sans faille. Bach était sensible, était de chair et de sang, et il souffrait comme vous et moi. Simplement, la culture luthérienne n'était pas une culture très amusante. Pour resituer les choses dans l'Allemagne de son temps, les suites de la guerre de 30 ans étaient absolument dramatiques. La vie n'était pas facile. en Thuringe du temps de Bach, et donc n'était pas du tout le même contexte que Liszt au XIXe siècle, qui se promenait dans une Europe qui commençait à s'amuser un peu, et il allait d'une cour à l'autre, Liszt. Hein. Bach était quand même dans une campagne. On croit qu'il n'était pas sensible, qu'il n'était pas fragile. Et d'ailleurs, pour écrire une œuvre aussi sensible que la sienne, il fallait avoir des fragilités.
Donc nous allons entendre un extrait du BACH de Liszt, interprété par Jean Guillou. Pourquoi ?
Jean Guillou avait une personnalité multiple, un des rares organistes qui soit aussi un grand pianiste. Il y avait Jeanne de Messieu aussi. Jeanne de Messieu jouait le concerto en mi bémol de Liszt, quand même extraordinaire. Guillou a parfaitement assimilé la version piano, parce que Liszt a écrit vraiment les deux versions, et la version de l'orgue. Il a pris le plus difficile des deux et il a créé une version qui est... J'oserais presque dire, c'est plus le BACH de Liszt, c'est le BACH de Jean Guillou.
Merci Yves, à bientôt.
À bientôt Blandine, et merci.
C'était De Pierre et de Notes, une émission présentée par Blandine Piccinini sur Radio Présence Lot.